Non, on peut leur lancer des tomates. Mais...
Il va me faire une image de merde. Ceci dit, il suffit.
Vous écoutez la web radio du HOF en direct du Nouveau Tel Avignon Centre.
Osmose.
Osmose.
Osmose Radio.
La web radio du HOF.
Tout va par trois en ce bas monde. Liberté, égalité, fraternité ou de manière un peu plus discutable, travail, famille, patrie, du beau, du bon, du bonnet dans la communication de grand-papa. Eh bien, à l'époque de grand-papa, eh bien, aujourd'hui, on pourrait penser que pour certains, et depuis toujours, j'ai envie de dire, il y en a pour qui ce fameux triptyque, ce serait boire, baiser, écrire, un rythme de vie, bon, ma foi, qui peut convenir à certains. C'était notamment le cas de l'auteur Charles Bukowski, pour lequel je reçois Holdan. Bonjour.
Bonjour.
Puisque vous êtes ici, de retour dans le studio d'Osmose Radio, j'ai envie de dire, pour présenter le troisième spectacle que vous nous proposez au Festival HOF 2022, avec ce spectacle « Boire, baiser, écrire », un air de Bukowski. C'est joué jusqu'au 29 juillet, sauf le demain mardi, à 23h15 au Shams Théâtre. Alors précisons-le tout de suite, avec un tel titre, et en parlant d'un tel bonhomme, c'est réservé à un public averti.
Non, d'ailleurs, avant-hier, il y avait un gamin qui devait avoir 12 ans, qui était là avec ses parents. C'était, ça l'a pas choqué. Tu sais, franchement, enfin, je pense que les pré-ados, à l'époque actuelle, sont plus en contact avec des choses autrement dérangeantes que Bukowski. Hein. Tu sais, la littérature, ce sont des mots. Hein, donc, je pense que ça va. Non, non. Évidemment, c'est plutôt pour les adultes. C'est sûr, si vous avez des enfants de... D'ailleurs, c'est intéressant, puisque tu te... je me souviens, le jour où il y avait un spectateur qui est venu et qui me dit à la fin, parce qu'on discute à la fin du spectacle, j'aime savoir pourquoi les gens sont venus. Et donc, quand il a dit qu'il avait lu Les Contes de la Folie Ordinaire à 8 ans et demi, 9 ans, et que ça l'avait quand même choqué. Et c'est vrai qu'il y a quand même... Bon, il y a un âge pour parler des choses de la vie. Ouais, oui. Oui,
c'est pas aussi horrible que L'Autre et Hamon, mais tout de même, c'est quand même assez costaud.
Et en plus, c'est quand même l'antépénultième spectacle d'Avignon, c'est-à-dire qu'il commence à 23h15. C'est-à-dire, actuellement, à 23h15, tous les gens bien sont déjà couchés depuis longtemps, hein, c'est sûr.
Mais on ne croise pas que des gens bien dans les rues de la cité papale. D'ailleurs, Pétrarque racontait déjà il y a 5 siècles, hein, que c'était Babylone, Avignon. Donc, vous avez trouvé votre place, Holdan, si vous êtes venu nous présenter ce spectacle. Alors, je précise que vous êtes déjà venu à Osmose pour présenter deux autres spectacles, Un homme inouï et ensuite votre concert de votre nouvel album, Scène Occupation, scène, un jeu de mots, sur la scène que vous occupez. Voilà. Donc, j'invite les curieux à aller un petit peu loin, plus loin, à gratter un petit peu dans les podcasts d'Osmose Radio. Nous, on en revient à ce dernier spectacle, Boire, baiser, écrire. Un air de Bukowski. Alors, Holdan, vous-même, vous êtes un personnage, j'ai envie de dire, bukowskien, puisque vous êtes intéressé par le rock.
C'est un compliment ou une insulte en direct?
Mais laissez-moi le temps de développer, s'il vous plaît. Alors, vous-même, vous avez toujours été intéressé par le théâtre et par le rock. Alors, Bukowski lui-même n'était pas intéressé par le rock'n'roll. Pour autant, lui-même a eu une aventure, en tout cas une vie assez rock'n'roll dans ses fondements, même si la musique ne l'intéressait pas trop. Et de tout ça, vous êtes amené un peu au cabaret et ce rythme de vie, en tout cas ces goûts que vous avez eu dans la vie, vous ont amené a priori à avoir envie d'adapter Bukowski au théâtre. Mais finalement, comment l'avez-vous vous-même rencontré?
Alors, Bukowski, je l'ai rencontré ado, voilà, jeune adulte, on va dire. Donc je l'ai rencontré par l'intermédiaire, le vecteur, c'était un bouquin, Les Contes de la Folie Ordinaire, c'était à une époque, les années... fin des années 80, par là, où il a été à la mode en France, beaucoup plus qu'aux États-Unis d'ailleurs. Donc j'ai lu ça m'a fortement impressionné. Donc j'ai lu plusieurs bouquins de Bukowski, et puis je l'ai oublié. Voilà, j'ai oublié comme tout ce qu'on rencontre dans la vie. Et il y a 6-7 ans, je préparais un Avignon, et je me suis rendu compte que ma manière d'écrire depuis toutes ces années avait été influencée par la manière de penser de Bukowski. Pas dans l'étylisme, hein, c'est pas ça. C'est juste parce qu'il a le principe d'écrire les choses qu'il ressent vraiment et de manière tripale. Et quand j'ai lancé le projet qui s'appelle Holdan en saine occupation, comme tu dis. Ma préoccupation, c'était d'écrire que des choses que je ressentais vraiment et pas des choses convenues. Voilà, je fais pas des chansons pour faire des chansons, je fais des chansons parce que j'ai envie de cracher quelque chose. Voilà. Donc je me suis dit, tiens, qui m'a marqué, c'est Bukowski. Je me suis dit, Bukowski, on n'en parle plus. Et j'ai donc décidé de lui rendre hommage. C'est un clin d'œil, un hommage dont il serait sans doute foutu en grande partie, mais c'est pas grave.
On ne le saura jamais puisqu'il a eu le bon goût de décéder après dans ce monde qu'il n'aimait guère, hein, avant de nous rencontrer, nous autres qui sommes impressionnés par son œuvre et dont finalement il se serait foutu s'il en avait eu l'occasion. Donc ça rend modeste déjà d'une, et c'est avec modestie justement que vous abordez son œuvre. Mais quelque chose qui moi m'a intrigué et que je trouve pas forcément très judicieux, c'est un choix de votre part, donc vous allez peut-être nous en parler, c'est vous commencez le spectacle, pour parler de la scénographie, de la mise en scène, vous commencez le spectacle avec une projection des images du passage de Bukowski à Apostrophe, je crois que c'était en 1984, où en fait il était totalement ivre et il a fallu le sortir du plateau. Et ça, finalement, c'était à une époque où Bukowski, on ne le connaissait pas en France. Il a été mieux connu fin des années 80, début des années 90, comme vous le disiez à l'instant. Et moi-même, je l'ai découvert par des amis, pas au lycée, etc. Et ensuite, il y a eu des films aussi sur son œuvre. Je pense à Factotum, par exemple, qui était sorti il y a quelques années avec Matt Dillon, et qui était une manière un peu d'adapter au cinéma sa vie et son œuvre. Du coup, je me dis, commencer par des images d'Apostrophe d'il y a plus de 30 ans, à une époque où la connaissance de Bukowski était tout à fait différente, sachant qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis et qu'on connaît, il y a toute une génération, soit qui était née en 84, soit pas du tout, qui connaît un petit peu mieux Bukowski que ne l'étaient les gens sur le plateau d'Apostrophe ce soir-là. Pourquoi avoir voulu absolument commencer par ces images ?
Alors, premièrement, on peut ne pas être d'accord. Bukowski était connu au moment d'Apostrophe, parce que sinon il n'aurait pas été à Apostrophe. Il faut être clair. Hein, c'est
il ça. Était connu d'un milieu littéraire peut-être, ouais, mais pas forcément du grand public.
Enfin, n'arrivait pas sur le bureau, sur le plateau d'Apostrophe, le premier écrivain autodéclaré. Okay. Ensuite, moi je pars, ce qui m'intéressait avec Bukowski, c'était de partir de ce que les gens en connaissaient. La plupart des gens ne connaissent pas Bukowski, ils ne l'ont pas lu, mais ce n'est pas grave, hein, on ne peut pas tout lire et tout. Mais ils ont une idée. Et cette idée, à peu près de manière générale, est fondée sur cette émission. Donc, l'anecdote que je raconte souvent, quand on tracte les gens, ma tracteuse, et on lui dit « Oh là là, Bukowski, Bukowski !» parce qu'on a l'impression que c'est l'antéchrist. Voilà. Parce qu'il y a cette émission, il a osé faire un pied de nez, finalement, à une institution française. Voilà. Bon, il y avait tous les auteurs qui venaient se gargariser, où j'ai écrit un roman, et mon personnage, il pense ça, il fait ça. Bon, lui, ça ne l'intéresse pas du tout, puisqu'il raconte sa vie, assez basiquement, ce qu'il a ressenti sur le moment. Okay. Donc, cet esclandre, enfin, il n'a rien fait, hein, simplement, il s'emmerdait avec des gens qui ne l'intéressaient pas, il s'est levé, il a fait « au revoir !» et il est parti en titubant, il a gêné personne. Bon. Très bien. C'est l'image que les gens ont. On n'y peut rien. C'est-à-dire qu'il faut partir un petit peu comme quand tu sais tous ces personnages célèbres dont on n'a que la représentation graphique. Tu vois, Victor Hugo, c'est le mec avec sa grosse barbe alors qu'il n'a pas eu sa grosse barbe toute sa vie, etc. C'est l'image. Donc je pars de ce que les gens connaissent pour arriver, pour dire, bon, ça, c'est ce que vous connaissez, on va aller voir ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est juste, hein. Je me suis pas basé sur autre chose que ça. On part de ce que les gens connaissent et on va ailleurs.
D'accord, donc ces images sont encore célèbres dans le paysage audiovisuel français. C'est vrai qu'après, à la télévision française, pour le coup, Gainsbourg, lui, n'est arrivé qu'un petit peu plus tard avec les mêmes...
Objection. Ah. Je pense que Gainsbourg faisait des coups médiatique, mais très pensé. Voilà. Je pense que quand Bukowski fait ça, c'est pas du tout pensé. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est un mec qui s'emmerde et qui s'en va. Tu vois, c'est pas le mec qui sort son billet, regardez bien, un peu en tremblant, qui fait son... Non, non, c'est un personnage vrai, voilà. Objection D'accord. terminée, votre honneur.
Non, mais du point de vue des gens qui ont vu des scènes d'ivrognerie dans des émissions de variété, du coup, pour eux, dans la chronologie, Gainsbourg n'est arrivé qu'après Bukowski. Voilà. Je ne dis pas que les deux avaient les mêmes intentions. Hein. Ne vous méprenez pas sur... ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, s'il vous plaît. Ne vous méprenez pas sur mes intentions. Une autre intention qui a été celle-ci, la vôtre, ça a été de mettre en forme les textes. Tout ça sur une scène qui représente un petit bureau qu'on imagine, enfin, qui est celui de Bukowski avec sa machine à écrire et nombre de bouteilles. D'ailleurs, vous buvez, vous poussez le réalisme vous-même jusqu'à boire aussi sur scène. Vous buvez combien de bières par soir ?
Non, mais je ne compte pas parce que je bois en fonction de mon envie du moment. C'est-à-dire, c'est pas scénographié. Ce que je veux comprendre, c'est je sous-titre ce spectacle « Expérience anarchique ». Parce que moi-même, au début, évidemment, je sais où je vais. Je sais sur quoi je m'appuie. Il y a quelques textes qui sont le fondement que je veux pas enlever. Il y a quelques artifices de mise en scène. Mais je considère que je vis le moment qui est là. C'est-à-dire que, bon, j'ai une trentaine de textes que je peux, un peu au hasard ou à la volonté, choisir. Je suis libre. C'est-à-dire, je suis libre de boire quand je veux, de ne pas boire quand je veux. Par contre, à la question « Pourquoi est-ce que je bois sur scène ?», ça, je peux y répondre. C'est parce que on peut considérer que la mise en scène, c'est Bukowski à sa table de travail. Okay, c'est aussi Bukowski en situation de faire des lectures. Donc Bukowski faisait des lectures, ce qu'il n'aimait pas, ce qu'il trouvait absurde, mais il le faisait parce qu'il était payé. Okay. Donc il était là, sur ce truc, et il buvait. C'est-à-dire que Bukowski buvait pour créer un cordon sanitaire vis-à-vis de l'humanité tout entière. Voilà, c'est son côté asocial. Reprenons un spectacle sur Bukowski, et je le dis tout au début, un spectacle sur Bukowski, sous-entendu, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour un spectacle pour Bukowski ? Ben, on essaye de rendre l'âme de Bukowski. Je pense que Bukowski, il aurait été là, il aurait bu, et il aurait fait, voilà, il aurait bu à son rythme, mais pas pour dire je bois, ce qui est ridicule, on n'est pas là. Et moi, buvant, je me mets dans un état qui est aussi instable. C'est-à-dire, je suis obligé aussi de me raccrocher à des choses. C'est-à-dire, je ne suis plus le comédien qui maîtrise totalement tout. Je me dis, ah oui, je suis un petit peu emporté sur la vague, tout en essayant de ne pas couler. Hein, c'est un truc. Donc, voilà. Donc, moi, je fais ça, mais c'est vraiment ni provocation, ni rien. D'ailleurs, une fois, j'ai vu un spectacle sur Bukowski qui a été créé à Broadway. Donc Broadway, évidemment, c'était très propre, très machin. Donc le mec faisait semblant de boire avec des verres vides comme on fait au théâtre, mais c'est très bien, chacun fait ça. Et l'élément central, au milieu de la scène, c'était un chiotte blanc, tu vois, un décor de théâtre, et il s'asseyait dessus, tu vois, pour bien montrer bon, le rapport à un petit peu... Peut-être qu'il inventait Scato avec le truc. Bon, ça, c'est du théâtre. Bon, voilà. Mais je ne fais pas du théâtre, moi. Je suis dans le vrai. J'essaye d'être le plus près de Bukowski. Bukowski, je pense qu'il n'aurait pas aimé voir un théâtre. C'était le problème avec la plupart des films qui ont été faits sur Bukowski. Bon, comment prendre la littérature et en faire un film ? Tu sais, c'est toujours très compliqué. Juliette, tu l'imagines sans doute pas comme ça. Ils ont fait Juliette ou le Père Noël, c'est un Chinois. Bon, ok. Donc, voilà.
Mais on ne peut pas reprocher aux gens d'avoir envie d'adapter cet univers. Vous-même, d'ailleurs, vous l'avez fait. Mais bon, on vous plaçait aussi dans une lignée bien française, comme disait Boris Vian. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Les amis de ma femme, mes emmerdements, enfin, tant de choses. Voilà. Et par conséquent, bah, vous êtes sur scène. Là, on est assez proche de la scène, nous, pour voir que ce n'est pas du chiquet. On entend les canettes qui sont ouvertes. Et vous avez forcément fait une sélection de textes, et les textes, il y en a beaucoup, entre les nouvelles, les romans, toujours autobiographiques, hein, puisqu'il n'allait pas, il décrivait sa réalité à lui, et puis vous en tirez des citations qu'on connaît beaucoup. Moi, une de mes préférées, c'est une citation qui me fait beaucoup rire, mais qui est en même temps d'une tristesse infinie. C'est par exemple « Quand on est heureux, on boit pour célébrer. Quand on est malheureux, on boit pour oublier. Et quand il ne se passe rien, on boit pour qu'il se passe quelque chose, par exemple. » Voilà. Donc on peut voir toutes ces petites citations qu'on connaît de ci, de là, pas dans le spectacle, mais elles sont tirées de textes que vous avez choisis. Comment les avez-vous choisis ?
C'est même un petit peu plus complexe que ça, c'est-à-dire que je me suis beaucoup servi de vidéos et de correspondances. C'est-à-dire que l'avantage qu'on a avec Bukowski, comme c'est un personnage contemporain, il a été filmé pas mal de fois, en particulier souvent par la presse, et malheureusement, je vous dis, il aimait pas la presse, puisque on est là, et son principe de base, parce qu'il appelait les reporters des cancrelats, et c'était de répondre n'importe quoi à leurs questions, ce que je ne fais pas aujourd'hui. N'importe quoi, il disait oui, oui, non, et il expliquait après, c'est à eux de se débrouiller avec mes réponses, c'est pas mon problème, c'est leur problème à eux. Donc je m'appuie beaucoup sur des petites choses, sur des petits courts-métrages qui ont été tournés par lui, par ses amis, je m'appuie sur beaucoup de choses pour recréer l'état d'esprit de Bukowski, voilà, c'est une chose. Et puis quelques textes, effectivement, comme L'Oiseau Bleu, enfin, qui sont quand même des textes qui représentent qui sont emblématiques et qui représentent vraiment la poésie du personnage au-delà de la provocation. Enfin, j'essaye à la fin quand même du spectacle qu'il y ait eu un mélange harmonieux, non, je ne sais pas ça, mais un panorama assez complet du personnage de ce qu'il est. Donc voilà, donc je mets oui, des citations, des mots, des c'est un mélange, mais je dis c'est empirique, c'est tous les soirs je sais où, à peu près où on va, mais je ne sais pas comment on y va, voilà.
Donc vous prenez le public fera cette expérience avec vous à chaque représentation et donc une sélection de textes de Bukowski qu'on peut voir interpréter par vous-même sur scène jusqu'au 29 juillet au Shams Théâtre à 23h15. Voilà, comment se passe cet ensemble de représentations que vous faites avec trois spectacles depuis le début du festival?
Ça se passe bien, c'est du boulot, ça se passe bien. C'est à chaque fois on se dit, mais c'est une phrase de Bukowski aussi. Le matin, on se réveille, on se dit qu'on n'y arrivera jamais jusqu'au bout de la journée, et puis on rigole à l'intérieur parce qu'on se dit, je me suis déjà dit ça le jour d'avant et le jour d'avant et le jour d'avant. C'est ça, tous les matins, on se dit, oh là là là, comment ? Et puis une fois que c'est parti, tu sais, c'est comme un match de foot, tu dis, je vais jamais réussir à le faire, et puis c'est quand c'est parti, tu cours.
Il y a tellement de lumière à Avignon, Coldan, et a l'impression de vivre un jour sans fin. Les nuits sont tellement courtes, vous me direz aussi, en ce
la
festival
marmotte.
Off. Voilà, voilà, chers amis. Bah, vous vous situez dans une lignée hein, d'artistes qui ont aimé Bukowski, bien que ce ne soit pas forcément réciproque. Hein, je pense à Robert Crumb, qui lui aussi vit dans le sud de la France. Vous, vous y êtes de passage pour nous présenter ce spectacle. Boire, baiser, écrire, un charmant triptyque qui est celui que vivait Bukowski. Bon, boire, baiser, écrire, avec ce sous-titre, un air de Bukowski, à 23h15 au Shams Théâtre. Merci, Holden, d'être venu nous parler de tout ça.
Merci pour l'invitation, c'était sympa.
Et on va finir avec quelques notes de musique de votre dernier album, Scène Occupation. Un morceau que n'aurait peut-être pas renié lui-même Charles Bukowski et le titre Bottleman.
Un homme qui vit dans une bouteille, qu'il finira bientôt. Il n'a besoin de personne pour lui dire qu'il a déjà perdu. C'est un homme qui vit dans une bouteille. Et ça lui va. Si le monde a raison, ce n'est pas grave, puisqu'il ne se bat pas. La fulgurance et la matière obscure n'est la transparence. C'est un homme qui vit dans une bouteille. Ce sont les dernières gouttes. Il sait déjà que le monde aura perdu bientôt. C'est un homme qui vit dans une bouteille, mais c'est pas grave.